Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous pour ce nouveau magazine de la moto le dimanche de 11h à midi sur Radio Campus Lille. Aujourd'hui, une émission essentiellement consacrée au sport moto avec Gilles Fagnin qui était dimanche dernier sur le circuit de Losail au Qatar. Gilles a assisté à la toute dernière manche du championnat du monde d'endurance et Gilles va tout simplement nous donner le classement final de ce championnat. Gilles, bonjour.
Oui, bonjour.
Avant tout, je voudrais que tu nous dises quelle température il faisait le samedi dernier au Qatar.
Samedi dernier, on avait à peu près 28 degrés à l'ombre.
Tu te rends pas compte.
C'était un truc de fou. Alors, on parlera un petit peu du Qatar, du pays, parce que ça vaut le coup aussi tout à l'heure.
Et le comble, c'est que tu t'es fait piéger par la clim.
Oui, alors par contre, j'ai eu vraiment un désagrément terrible parce que j'avais prévu d'intervenir dans l'émission, effectivement, et puis j'étais complètement à faune.
C'est dingue, ça.
Donc, avec la différence de température, etc. Bon, voilà. Donc, j'ai pas pu non plus crier pour.
Oui, pour le GT, hein, les super finales. Donc,
voilà. Donc, on va participer.
Non, je dis rien. Bon, d'accord. Ok. Non, je dis rien.
Bon, tout le monde est au courant que le GMT a gagné la course.
Le GMT a gagné la course, mais c'est Suzuki qui.
Qui reste champion du monde. C'était mon pronostic.
Il y avait cet à couteau tiré là avec BMW. Hein, il y avait quelques points d'écart. Hein,
on en parlera tout à l'heure.
Ah bon, d'accord.
On reviendra là-dessus tout à l'heure. Alors notre invité aujourd'hui a rapport avec l'endurance puisqu'il a couru ses premières 24 heures moto au Mans. C'est Xavier Delettré. Il a tout juste 22 ans. Il a déjà un petit palmarès à son actif. Alors, il est né à Villeneuve-d'Ascq, hein, donc il vit actuellement dans la région de Douai. Donc, c'est vraiment quelqu'un du sérail, un vrai ch'ti.
Il est tout timide.
Voilà. Donc, son papa est concessionnaire moto dans le Pas-de-Calais aussi, on peut le dire. Donc, il est né dedans, en fait, à la moto. Il est tombé dedans quand il était petit. En 2008, il se lance dans la coupe Kawa ER6. Il ramasse quelques points. Il se fait un peu une bonne mise en jambe. Ensuite, il passe en 2009 en 600 promo où là c'est pareil, il glane quelques points, mais surtout c'est en 2010 où là c'est la révélation, il passe en 600 promo et là il termine 10e avec une clavicule cassée en milieu de saison qui lui fait louper 3 courses. Donc quand même il y avait déjà un bon début. Bonjour Xavier.
Bonjour.
Alors cette année tu termines 2e des 1000 promo, c'est magnifique, hein, c'est un très très beau résultat. Qu'est-ce que tu peux dire un peu de ta saison promo? Comment ça s'est déroulé?
C'était une super année. Résultat inespéré en début de saison. Pour une première année en 1000, j'espérais une place au classement final dans les 7-8 premiers. L'adaptation était plus facile pour moi sur la nouvelle ZX Deezer, hein, parce que ils ont fait des gros efforts chez Kawa sur la partie cycle et le moteur. Avec une prise en main très très facile, donc vraiment une super année, j'ai fini toutes les courses, très peu de chutes.
Avec des points à toutes les courses, notamment deux victoires, une à Croix et une dans la deuxième finale de Carole. Donc ça t'a permis cette régularité de terminer deuxième, juste derrière Claude Lucas qui est quand même un concurrent qui a 8 ou 9 années derrière lui de compétition.
Ouais, c'est ça, beaucoup d'expérience.
Qui est aussi sur Kawasaki d'ailleurs.
Ouais, sur Kawa, il était très très fort cette année. Il a marqué beaucoup de points dès les premières courses. Ça lui a permis de s'échapper rapidement au classement et il était déjà champion avant la dernière course à Carole.
Il y a une grosse différence entre le 600 et le 1000 pour s'adapter.
Ouais, c'est des trajectoires différentes, la puissance pas toujours facile à passer. Mais bon. On s'amuse plus avec un 1000.
Et est-ce que tu disposais du traction contrôle?
Ouais, le traction contrôle, ouais.
Il va falloir que tu nous expliques ce que c'est que ce truc-là. Traction contrôle, des trucs. Non, on sait même plus ce que c'est.
Ouais, parce que bon, ça, c'est l'évolution des motos actuelles.
Voilà. Et pour terminer ce sommaire, je vous rappelle que la programmation est signée. La programmation musicale est signée, Laurent Rodier. When I call,
working around the clock. I want a drink of water. Won't let me stop, big boss man. Can't you hear me when I call? 'Cause you ain't so big, you just tall, that's all.
Toujours sur Kick à Coûté Tout Pâle, l'émission des motards sur Radio Campus et avec notre invité qui s'appelle aujourd'hui Xavier Delettré, qui est un pilote de vitesse français du nord de la France. Alors, on parlait juste avant la coupure du traction contrôle. Lamiche, tu voulais en savoir un peu plus?
Bah oui, je voulais savoir comment ça fonctionnait ce système, en fait. Donc, durant le morceau de musique, Xavier nous a expliqué un peu. Donc, c'est le différentiel entre la roue avant et la roue arrière. Hein, il y a un microprocesseur qui gère un peu donc la vitesse, qui calcule la vitesse de la roue avant. Et si la roue arrière va un petit peu plus vite, hop, ça déconnecte l'embrayage. C'est ça?
C'est ça. La
traction, je veux dire. Hein,
ouais, une petite coupure qu'on sent à peine, mais qui régule en fait.
Et ça évite de partir
en
sucette.
Ouais, ça prévient un petit peu de la chute.
La chute, voilà.
Ouais, ça m'a
et toutes les motos de course maintenant ont ce système.
Kawala, BM, pour l'instant c'est les seuls.
Et donc la nouvelle Yamaha R1 va sortir aussi avec deux séries système,
ouais.
Nouvelle
oui,
version.
Parce que sur les motos GP, bon, ça fait longtemps que, enfin, ça fait depuis le début des 4 temps que ces motos sont équipées de ce système.
Ouais, mais
par contre, pas en promo. C'était pas encore sorti ce système n'était pas encore sorti sur ces machines.
Non, c'est
de
depuis
promo.
Depuis cette année.
Mais c'est-à-dire qu'en promo, on roule avec des machines de série. Donc, ouais. Il faut que le système soit sorti de série pour pouvoir l'adapter. Sinon, c'est pas possible.
Donc, on va dire que ça nous vient directement du laboratoire du MotoGP.
Ouais. Bah, Kawa qui était en MotoGP avant, ouais. A ramené la technologie sur les motos pour le mettre d'origine. Et c'est très utile, notamment sous la pluie.
Ah bah oui, je pense que sous la pluie, ça doit être très agréable d'éviter de partir en glissade.
Alors, ce qui est aussi redoutable par rapport à Xavier, c'est aussi de dire que, par exemple, au niveau de sa saison, avant la dernière course, il n'était que quatrième du classement. Et c'était... il y avait aussi un autre pilote du Nord, qui est Charles Gers, qui était devant toi.
Ouais, Charles, qui était sa deuxième saison en 1000.
Oui, en BM, lui. Alors, lui, ça sera sa deuxième saison. Et finalement, sur la dernière course, tu viens le chercher.
Ouais, bah, j'avais 16 points à lui reprendre. Il y a plus sur la dernière course. Moi, j'apprécie ses conditions. Lui, apparemment, non.
Ça va.
Ouais, j'en ai profité.
Sous la pluie, c'est pas pareil.
Ah, donc, voilà, c'est... C'est un bon pilote depuis. Bah écoute, quand on est dans le Nord, il faut savoir rouler. Bon, Charles est aussi originaire de ce clin, il me semble, pas loin.
Ouais, ouais, il habite à Bachy. Ah,
d'accord, et c'était sur le circuit de Croix.
Là, c'était à Carole.
C'était à Carole. C'est à Carole.
Donc à Carole, dans ces conditions humides, et ben voilà, ça t'a permis de terminer second. Alors, il y a aussi un autre volet de ta carrière de pilote dont on n'a pas encore parlé, c'est tes premières 24 heures moto. Alors comment c'est venu cette idée Comment qui t'a contacté? Est-ce que c'est toi ou...
Bah déjà, je suis passé en 1000 en me disant que ça permettrait de m'ouvrir des portes pour justement faire les 24 heures et le bol d'or. Donc François Gilles et Manu Labutière du team 3D Endurance m'ont contacté juste avant les 24 heures en proposant de participer avec eux
alors juste
cette
avant,
aventure.
C'est-à-dire deux jours avant
C'était ouais, deux mois avant, je pense.
Ah, quand même, deux mois, ouais, ouais. T'as le temps quand même de te retourner.
C'est sûr qu'il faut se préparer. Hein. Ouais. C'est... Bon, même si je suis pas allé au bout, malheureusement, à cause d'une.
Alors, Gilles va nous dire qu'une course d'endurance, c'est pas du tout de la vitesse hein, ou des épreuves qui durent.
On en parlera tout à l'heure.
45 minutes.
On en parlera tout à l'heure. Les Japonais souvent confondent vitesse.
L'ambassadeur de l'endurance, hein, Gilles. Hein, tu sais, depuis des années. Hein.
Oui, donc bah, effectivement, il y a cette difficulté-là de se dire comment on fait, est-ce qu'on paye aussi, c'est ça, est-ce que tu dois participer financièrement, comment ça se passe?
Non, là, bah, l'avantage c'est que j'ai rien eu à dépenser du tout, l'organisation était parfaite.
C'est bien ça.
Un bon cuisinier.
Faut dire qu'Emmanuel.
La boue gratuite.
Faut dire qu'Emmanuel.
La moto, tous les mécaniciens.
Ouais,
que...
Ouais, et puis écoute, une équipe très sympathique.
Il faut dire qu'Emmanuel Labussière il était encore pilote l'an dernier. C'est un team nivernais qui est très proche donc au niveau du Boulder. Ils ont fait énormément de Boulder avec plein de pilotes. Et depuis cette année, il est passé team manager hein, en fait. Il a son propre, il est devenu lui-même promoteur de son propre team. Il était déjà pilote et promoteur du team. Et aujourd'hui, bah, il est plus pilote parce que bah, il est trop âgé. Mais ça reste quelqu'un qui comprend bien en fait les. Les pilotes, comment ça se passe, les relations?
Ouais, bah, comme il était pilote qui a fait pas mal de courses d'endurance, il nous apporte son expérience. Parce que bon, on avait une équipe très jeune avec Charles Gers là, et un autre pilote de la région parisienne qui avait le même âge que moi, première participation aussi. Du coup, ça. Le fait qu'il nous apporte son expérience, bon, ça nous prépare.
Qui a pris le départ?
C'est Robin. On me l'a proposé, mais bon, pour les premières.
Ça doit être chaud, c'est le départ.
Ouais, j'ai préféré.
Il y a une montée d'adrénaline qui doit.
Je pense.
Ça doit être quelque chose.
J'espère en prendre un jour.
Alors, on va passer un petit morceau de musique et on revient là-dessus tout à l'heure.
Happy home. front door. You run around the back door, catch it just before it goes. Death is evil. Evil going all alone. Yeah, you better warn your brother.
Et nous sommes de retour après cet excellent morceau de musique, merci Laurent,
avec
Xavier Delettré pour parler de ces 24 heures. Alors, comment ça s'est passé au niveau des essais? Ça devait être vachement impressionnant finalement.
Ouais, bah, se retrouver avec des pilotes de haut niveau, ça changeait du promo, des mecs d'expérience, bon, c'était assez impressionnant.
Est-ce qu'on essaye de les suivre pour voir un peu? Moi, je rêve de faire ça, c'est-à-dire de voir un peu comment ils roulent, non?
Non, j'y rêve pas, c'est pas la définitive. Attends, t'es trop vieux pour faire ça.
On essaye, mais bon, on se fait peur à plusieurs reprises.
Alors, donc, est-ce que tu les vois passer comme des balles? Il y a une grosse différence, vraiment ou...
Bon, il y a une grosse différence au niveau du pilotage, aussi au niveau du matériel, des pneumatiques.
Oui, parce que vous êtes en stock sport, hein, faut expliquer ça, vous êtes en catégorie stock sport. Donc c'est une machine presque sortie de casse, en tout cas un moteur d'origine.
Ouais, c'est ça. Et puis eux, ils ont des machines de superbike, donc plus évoluées, avec une préparation moteur, et surtout au niveau des pneumatiques, beaucoup plus performants. Après, bon, ça n'enlève rien à leur talent.
Oui, tout à fait. Après, bon, il y a l'expérience du pilotage. C'est vrai que toi, c'était tes premières 24 heures. Et alors, au niveau d'essai, vous êtes classé comment alors,
Bah, aux essais, on s'était classé.
Il faut dire qu'il y a eu déjà des systèmes. C'est-à-dire que tu devais courir avec quelqu'un qui a déclaré forfait.
Oui, c'est ça. Et du coup,
Charles. Donc, il était souffrant et qui n'a pas pu rouler, qui a déclaré forfait. Et du coup, tu t'es retrouvé dans une équipe de 3 pilotes sans expérience.
Ouais, c'est ça, les premières 24 heures pour
pour chacun d'entre eux.
C'était un peu la panique. Mais bon, ça c'est... Bon,
c'était chaud, hein.
Ouais, c'était chaud, ouais. C'était bien parti, et puis bon, malheureusement...
Donc les essais, vous faites quelle place?
On fait 21 ou 22e au général, et ça nous donnait la 5 ou 6e place en stock.
Ah, ce qui est quand même sympa, parce que dans le stock sport, il y a aussi des écuries de pointe. Hein. Il y a des teams qui ont des dents longues. Hein. Il y a Motor 7, il y a nos amis de G Sport, du circuit des sports.
Ouais,
qui marchent bien aussi.
Qui marchent très bien aussi, qui ont de l'expérience, des teams vraiment très aboutis. Donc il y a de la vraie concurrence, donc 5e en stock sport, c'était vraiment des beaux essais, quoi.
Ouais, c'était bien parti.
Donc bon, je suppose que là aussi, bon, ça aurait été aussi tentant pour toi de prendre le départ.
Ouais, on me l'a proposé, bon, j'ai hésité, j'avais pas beaucoup de temps pour donner ma réponse. J'avais le collègue qui était surmotivé pour le prendre, donc j'ai laissé faire et puis...
Donc alors comment ça s'est... Explique un peu, tour par tour, un peu comment ta course a évolué au fil du temps.
Bah, j'ai pris le deuxième relais, donc mon équipier qui a pris le départ, il a fait un relais de 1 heure. Donc 1 heure où la pression monte progressivement. Et puis après, bah, c'est parti, rouler avec les tribunes pleines, c'est... D'excellents souvenirs.
C'est vrai qu'il y avait une affluence vraiment terrible. Il y a eu vraiment beaucoup de monde cette édition qui était sous le soleil.
Ouais, sous le soleil, ouais, des bonnes conditions.
C'est dommage qu'il n'y ait pas plu, peut-être.
Ouais, bah, une course d'endurance, on préfère avoir du soleil.
Pour le public, c'était vraiment
magnifique. Pour une première, je pense que sous le soleil.
On avait vraiment une très très belle édition cette année en septembre. Parce que faut dire que c'était le premier mois en septembre. D'habitude, il fait beaucoup plus froid puisque c'est en avril. Donc là, pour la première fois, on a eu des 24 heures sous un soleil et avec des températures quasi estivales.
Un peu frais la nuit quand même, mais Ça a été, ouais, on va pas se plaindre. Ouais.
Alors comment tu fais pour gérer le, au niveau de la, comment dire, la fatigue?
Bah, les courses d'endurance ressemblent de plus en plus à des courses de vitesse. Hein. Les relais,
ça va de plus en plus vite.
Ouais, ça va de plus en plus vite. Donc, bon, essayer de bien se relâcher en ligne droite. Et puis, bon, on est. Rouler ouais. comme de, essayer de rouler comme
d'habitude. Bon, un relais, c'est combien de temps? Combien de tours?
C'est une heure.
Une heure?
Ouais, relais de une heure.
Donc, pendant une heure, il faut que tu sois à 100%, 110% de l'attention.
Ouais, voilà,
à 110% de la performance de la machine.
Ouais, c'est. Puis bon, moi j'ai l'habitude de rouler sans, avec une petite réserve. Et puis bon, là, pour éviter la chute, il y a toute l'équipe derrière, on n'a pas envie de les décevoir. Ramener la moto en cube.
Ça représente combien de tours pour toi à ton niveau, une heure de course?
Une heure, c'est une petite trentaine de tours.
D'accord, 30 tours. 30 tours, paf, à fond.
Ouais, c'est presque. Ça.
Avec une petite. Voilà.
C'est pas, ouais, c'est pas facile, hein, parce que il faut pas relâcher son attention, parce que la moindre petite chose.
Ouais. Il y a les retardataires à passer.
Il faut pas que tu penses à ton, comment dire, ton déficit, ton compte en banque pendant la course.
Non. Faut...
alors comment ça, au final, vous êtes qui est classé combien? Est-ce que vous arriviez à remonter sur les concurrences?
Ouais, donc on était parti 21 ou 22, je me souviens plus, mais après 5 ou 6 heures de course, on était aux alentours de la 15e place, donc tout se passait bien. En stock, on était 4e. C'était très serré, hein, la course en stock. On visait le podium, s'en rapprochait petit à petit. Devant, ça roulait très très vite. Mais bon, on s'accrochait, on lâchait pas.
Et alors? Et là, on va aussi aller à la conclusion. Il s'est passé un fait majeur.
Ouais, la casse moteur.
Malheureusement, c'est un fait majeur. Casse moteur. Une casse moteur après à peu près 7 heures de course. Hein.
Ouais, bon, c'est 22 dommage. Heures, trahi par la mécanique.
Voilà, trahi par
et
la
alors
mécanique.
Et alors là
bah, on remballe et puis.
Grosse déception.
Grosse déception. Ouais.
Alors, en préparant l'émission, tu m'as dit que aussi Kawa a fait un truc incroyable. À la suite de cette casse moteur. C'est-à-dire que vous avez renvoyé le moteur chez Kawa.
Ouais, et Kawa l'a pris en garantie parce qu'il y avait un défaut d'usine, en fait.
Ouais, c'est quand même
chose qui arrive jamais voilà. Quand une moto fait de la compétition.
C'est jamais le cas. Et c'est vraiment pas de chance, en fait. On avait vraiment là, les chances d'avoir un pilote de la région sur le podium Stock Sport.
C'était le mauvais numéro.
Ah bah écoute, voilà. Hein, c'est une première aussi, tu sais. À mon avis, il y en a beaucoup qui ont. Hein. Bon, allez, musique. Vous avouez
en plein de la scène rock pour les jeunes talents de la région Nord-Pas-de-Calais, le Festival Rock de Flénérage présente sa 3e édition. Samedi 26 novembre 2011, 20h, salle des fêtes, place de la mairie. À l'affiche en première partie, les groupes Les Vénards et Projet. En seconde partie, Matrage, sa nouvelle formation Socrate. Pour un prix d'entrée de 6€, parking gardé, restauration sur place assurée. Réservation conseillée dès le 31 octobre à la mairie de Flins ou au Temple du Disque à Douai. Toutes les infos sur le site www.festirock.eu.
I tell her that I played for a treat of rain. She asked me if I'm gonna play tonight. Yeah. Says, why'd you buy her a drink? I said, I think she likes me, that's what I'll think. I think she likes me, that's what I'll think. I think she likes me, that's what I'll think. I think she likes me, that's what I'll think. I think she likes me.
Le magazine de la moto sur Campus Lille, de 11h à midi tous les dimanches. Et on n'a pas eu le temps de présenter notre deuxième invité qui est Aurélien Louk. Aurélien, bonjour.
Bonjour.
Bah, tu sais pourquoi tu es dans les studios aujourd'hui, hein, c'est pour nous raconter un peu cette, on va dire, une balade que tu as, il y a 3 semaines.
Ouais,
une balade que tu as faite là-bas, donc sur le circuit de Valence, pour assister au tout dernier Grand Prix de la saison de MotoGP.
Ouais, ça y est, c'était fait, c'était assez intéressant.
Alors nous, on voudrait savoir un peu l'ambiance, un petit peu, parce qu'on sait que les Espagnols, ils sont chauds. Hein, c'est je crois qu'au niveau moto, c'est l'un des peuples les plus chauds de la planète. Hein.
Bon, ouais. Ils sont.
Bah non, c'était froid.
Ils sont pris, ouais, ou bien c'est la météo qui
fait. Non, il faut dire que pendant tout le Grand Prix, pendant tout le week-end, il a plu. Hein, il a fait froid
et très
pluvieux.
Froid et pluvieux, ouais.
Donc il n'y avait pas trop de spectateurs.
Non. Pas tellement.
Les Espagnols, ils n'aiment pas trop la pluie non plus. Bah, non plus, ouais. Tu vas me dire, hein,
c'est ça.
C'est pis du sud. Hein.
C'est comme tout le monde, je pense.
Bon, alors, t'es parti donc en voiture là-bas, enfin en gros, et puis après, tu peux nous expliquer un petit peu comment on fait pour se loger déjà sur le week-end.
Bah, en fait, ils ont aménagé une pâture juste à l'entrée du circuit.
C'est une pâture, c'est pas un camping.
Non, c'est pas une.
Ça veut dire qu'il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de douche, il n'y a rien.
Ils ont ramené des douches de chantier.
Ah oui, amovibles.
Ouais, voilà, c'est ça.
Donc c'est quand même, ça reste propre quand même. On peut quand même sur 2-3 jours aller faire ces petits trucs.
On peut le faire.
On peut le faire. Ça devient pas trop dégueulasse au bout de 24 heures.
À vos risques et périls.
D'accord. Bon, j'ai compris. D'accord. Donc il serait préférable de prendre un petit camping aux alentours, mais à condition d'avoir un moyen de locomotion.
À condition d'avoir un moyen de locomotion, ouais, parce que si vous partez en avion, il faut commencer à louer une voiture.
Alors, il faut louer une voiture là-bas, oui. Et je suppose que l'aéroport n'est pas tout près.
L'aéroport est à une trentaine de kilomètres du circuit.
Donc forcément obligé de prendre ou un taxi éventuellement.
Taxi.
Mais une fois qu'on a le taxi, quand t'es sur le circuit, si tu restes 3 jours, il faut que tu te débrouilles.
Ouais, faut se débrouiller.
Pour la bouffe et tout ça.
C'est pas évident.
C'est pas évident. Ouais, donc la solution, tu préconises ?
Bah, la location de voiture, à mon avis, je pense que c'est plus simple. Hein.
Ouais, et puis après, ça permet aussi de visiter un petit peu la
région. Parce
la,
que
la région, la ville.
La, hein, la ville de Valence, le vieux Valence, c'est quand même une belle...
Voilà, hein. Il n'y a pas que la moto quand même, hein, dans la vie. C'est un vrai. Petit peu de tourisme aussi, hein, quand on va. Hein, Xavier ?
Tant qu'à faire.
Ouais, bah, est-ce que tu connais le circuit de Valence ?
Ouais, je suis allé y rouler en début de saison. Là,
Est-ce que c'est un circuit que. Est-ce que tu apprécies le tracé ?
Ouais, très compliqué.
C'est compliqué, ouais.
Avec des freinages sur l'angle. Pas facile, mais. un beau circuit, puis une belle région. J'ai vu du soleil. Et...
Ah, t'as vu du soleil, bah tu vois, t'as eu de la chance. Bon, Aurélien, alors, pour le prix d'entrée à Valence.
Alors, nous, on avait pris la place dans la tribune juste après, la ligne droite, juste après le premier virage du circuit. Et on en a eu pour 118,50 €.
Attends, le premier virage après la ligne droite, c'est ça?
Ouais, après.
C'est le meilleur endroit pour les spectateurs. Alors, vraiment, le pilote, hein. Peut-être que c'est aussi l'endroit très compliqué à prendre, non?
Ouais, celui-là ça va, c'est au bout de ligne droite, on arrive vite, mais c'est...
T'arrives vite, ouais, donc freinage un peu appuyé, forcément, ouais. Très appuyé d'ailleurs.
Ouais, ouais, un beau virage, c'est sympa à regarder.
Donc on a la chance d'avoir le pilote et le spectateur, écoute, c'est génial aujourd'hui. Hein.
Et en tout cas, au niveau du spectateur, l'avantage c'est que de là où on voit tout le circuit, excepté trois endroits.
Ah, tu vois tout le circuit. On peut voir le circuit.
Il n'y a pas d'infrastructure en plein milieu, d'accord, donc ça permet de tout voir.
C'est un circuit vallonné, le circuit de Valence?
Non, c'est un circuit plat, et c'est plat, pour ça aussi qu'on peut voir tout le circuit, je pense.
D'accord. Et puis après, Aurélien, il y a la petite cerise sur le gâteau, là.
Oui, bah...
Quand on se débrouille bien, quand on est spectateur, quelquefois, on peut faire des choses... Bon, on va dire que c'est pas normal, hein, parce que si tout le monde fait ça, c'est le bordel.
C'est pas
mais toi, tu t'es dit, tiens, comme tu es fan de Stoner, Casey Stoner, et comme c'est lui qui a gagné le championnat du monde 2011.
Et la course aussi.
Et la course en plus. Donc, t'es dit, quand même, non, je peux pas avoir fait tout ce trajet pour avoir simplement assisté et pas me faire une petite photo avec le champion du monde.
Ouais, avec le grand.
Alors
du coup, on s'est amusé, on est allé escalader les grillages.
Tu sais que t'as pas le droit.
Oui, je sais. J'espère que les mecs de la Dorna ne m'entendent pas parce que
c'est porté par la passion.
Passionné, tu vois, Xavier, pour aller faire une photo avec son idole.
Ouais.
Hein, quand tu seras un grand pilote aussi, Xavier, tu sais, dans 15 ans
aussi,
on viendra escalader pour faire les photos avec toi.
Bah, surtout que Xavier n'a que 22 ans.
Bah oui, avec 22 ans. Alors tu sais, il y a quand tout
le stoner.
Et donc ça s'est bien passé.
Ah, c'était top.
Bah, tu vas pas tout nous raconter, nous on sait. Hein,
ouais,
y a les chiens, ils t'ont lâché les chiens, ils t'ont couru après. ils ont sorti les mitraillettes aussi là-bas.
Ils sont assez chauds quand même.
Ils sont chauds.
Bon, au total, t'as resté 48 heures en garde à vue. T'as dû.
Ils ont appelé l'armée, tout. T'étais avec le copain, hein, je sais pas. Non, trois, on était à trois.
On était à trois.
Donc finalement, vous avez réussi. Il y a même la photo avec Valentino Rossi. Qui a pas voulu sortir du mobilhome parce que tellement il pleuvait. Il a tendu la main.
On a une photo aussi avec Stefan Bradl, le champion du monde Moto 2.
Voilà, ouais.
Et on a eu quelques pilotes comme Randy Depunier, on a Capiro aussi.
D'accord, mais oui. Et ces photos, on peut les voir
sur le forum de Kikinko.
Sur le forum ou Facebook, hein, aussi.
Non, mais sur le forum de Kikinko.
Sur le forum de Facebook.
Rubrique, on y était.
D'accord, voilà. Donc, conclusion, tu retournes l'année prochaine.
Je re-signe.
Ah, tu re-signes
Je re-signe tout de suite, sans problème.
Bah, tu vois, Xavier, hein, tu vois, moi, les spectateurs. Heureusement qu'il y a des spectateurs aussi, hein, à la moto, hein, parce que sinon, il n'y aurait pas de pilote.
you wanna do. But someday, when you think that you've got it made, you'll get it wider deep enough so you can't wait.
Magazine de la moto le dimanche de 11h à midi sur Radio Campus Soli. On va partir au Qatar avec notre ami Gilles Fagnin qui était là-bas dimanche dernier. 30 degrés en maillot de bain, la mer, le sable, le désert, oui, le chameau.
En fait, pour dire deux.
Non, c'est pour faire rêver, Gilles. Ouais. Parce que là, il fait 5 degrés même pas.
C'est vrai que le Qatar est un pays chaud. D'ailleurs, il pleut jamais. Donc, comme ça, c'est réglé. J'ai demandé à des Qataris. Il ne pleut jamais dans ce pays. Bon, dis-donc. Donc le circuit, un petit peu pour poser un peu le décor, c'est un circuit qui fait quand même 5 km 380 de long. Alors c'est quand même un circuit impressionnant avec un éclairage. Donc on peut faire des courses nocturnes, un peu comme à Bahreïn où on voit des courses de Formule 1 ou des courses de MotoGP. Chaque pylône, quelques pylônes sont alimentés par des générateurs qui marchent au pétrole. Donc c'est assez impressionnant, il y a des générateurs. Alors le circuit est à 25 km de la première ville, c'est-à-dire de Doha. Donc il faut absolument louer une voiture parce que là c'est même pas la peine. Bon, alors sachant que la voiture ça coûtait 20.
Savez, comment on fait aussi pour aller là-bas au Qatar, parce que
au Qatar, voilà, alors il y a un vol avec escale à Bahreïn qui est un vol économique, hein, évidemment, puisque pas les temps qui courent évidemment. Et puis ensuite, il faut louer la bagnole, et la bagnole c'est 20 € par jour, c'est pas très cher. Et puis surtout, ce qui est un très surprenant, c'est quand on fait le plein. Parce que moi j'ai fait le plein de la voiture, c'est 6 centimes du litre. Il n'y a que des voitures essence là-bas. Alors vous voyez, nous on a des petites voitures de location, les mecs sont là avec des 4x4.
T'es pas revenu avec des jerrycans.
C'est des 4x4, alors Deluxe, ouais. Si possible, avec des gros moteurs V8. Il n'y a que ça. Alors pour la petite histoire, il faut savoir que chaque Qatari a 1 800 000 habitants dans ce pays. Il y a seulement 400 000 Qataris de naissance, et chaque Qatari de 0 à 18 ans reçoit 5 000 dollars sur son compte par mois.
Ah bon?
Jusqu'à ses 18 ans. Et ce qui fait qu'à 18 ans, les jeunes auront 1 million de dollars de quoi faire
un beau pays,
la
ça,
compétition
hein
moto.
Avec Xavier,
ça sera bien. Alors en fait, c'est un pays qui est extrêmement riche par rapport au pétrole, évidemment, mais avec une philosophie de partage. Je trouvais que c'était quand même pas mal. Sauf que aucun Qatari ne travaille. Ah bon ? Voilà, aucun catering travaille. Eux, c'est une vie de luxe et de plaisir. Et en fait, ils embauchent des pour travailler sur le circuit notamment, mais même ailleurs, pour les chauffeurs de taxi, dans les hôtels. C'est essentiellement des Sri Lankais, des Indiens. Des Indiens d'Inde, pas d'Amérique, hein, évidemment, et qui viennent travailler 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, 2 ans. Et quand ils s'engagent à travailler, dès le départ, on leur prend leur passeport, on ne leur rend qu'à la fin de leur engagement. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas partir.
Ils font l'esclavage quand même, ça, non ?
Non, parce qu'ils ont des bons salaires. Ils ont des salaires supérieurs à la moyenne. D'ailleurs, ils vivent dans, ils sont aussi logés. Il y a des villages de, alors un peu des porte-à-cabins, des villages installés avec la clim, hein, dans le désert.
Oui, c'est pas
et le matin, on vient les chercher en minibus. On voit des minibus venir chercher les. Et c'est un pays qui travaille tout le temps. C'est-à-dire, il y a des grues tout le temps qui fonctionnent. Il y a des immeubles tout le temps en construction. Moi, j'étais surpris de voir qu'on démolissait des immeubles en bon état. Eh ben oui, parce que là-bas, on rénove rien. Quand les meubles jugés vétustes, il est détruit, on en reconstruit un neuf. Voilà, donc c'est un peu pour planter le décor d'un pays assez
voilà,
incroyable.
On y est.
Alors, le circuit est, bon, comme je vous l'ai dit, en plein désert. Donc, il y a rien. La route qui mène au circuit, c'est... alors là-bas, c'est des routes de 2x3 voies. Il y a aussi des radars, hein, limités à 120 km/h. Si vous faites choper au radar, l'amende minimale, c'est 1000 euros. Comme ça, c'est réglé.
Et il coupe une main, je crois.
Alors et la tentative de vol au Qatar, tentative, c'est 15 ans de prison.
Ah oui,
donc autant dire que c'est un pays très sécurisé. Il n'y a pas d'exaction. Alors, en même temps, il y a des richesses, donc bon, voilà quoi. Et voilà, donc c'est un pays assez surprenant. Alors dans ce contexte-là, je vais vous raconter tout à l'heure comment s'est déroulé ce week-end de course incroyable au Qatar.
I'm
résultat de la course, Gilles?
Attends, avant
c'est
ça,
fini, on a planté le décor, là, on sait que bon, l'essence n'est pas chère.
Il faut dire qu'on a vécu une saison d'endurance à suspense jusqu'au bout, c'est-à-dire que véritablement, en arrivant au Qatar, on ne savait pas qui serait champion du monde. On sait que la BM avait un petit avantage en puissance pure, et la machine de Sébastien Gimbert, Erwan Higon et Damien Kedlin avait fait la pole position. Juste devant la Yamaha du Yacht, Yamaha Autriche, qui pour l'occasion avait embauché un japonais qui s'appelle Nakazuga Katsuyuki. Donc c'est un pilote japonais qui s'est notamment illustré à Suzuka, donc qui avait été repéré par le team. Et derrière on avait le GMT 94 qui avait surclassé le CERT Suzuki Endurance Racing Team, le team le plus titré dans l'endurance, puisque plus de 10 titres de champion. La machine numéro 1 de Vincent Philippe, qui était enfin revenu de blessure, et Anthony Delal. Voilà, donc on avait non pas un duel, mais quatre machines susceptibles de vraiment se batailler. Alors non seulement le GMT jouait la troisième place du championnat du monde, si le Yard passait devant, il pouvait perdre et que le GMT ne faisait pas de résultat, il pouvait perdre cette troisième place. Mais aussi la première place n'était pas jouée, c'était à couteau tiré. Le CERT est arrivé avec 9 points d'avance. Il fallait absolument que BM mette du gros gaz. Gagne, mais que Suzuki en même temps ne soit pas deuxième, parce qu'il y avait que 6 points d'écart entre le premier qui marque 30 points et le second qui marque 24. Donc voilà, un peu le dilemme. Il fallait absolument que BM soit aux avant-postes et que Suzuki fasse une contre-performance. Moi j'avais pronostiqué que Suzuki resterait champion du monde et que BM gagnerait la course.
Tu connais Dominique Mélian, hein?
Alors je connais Dominique Mélian, c'est un lion,
c'est un tueur.
Bon. Alors, mais bon, aussi du côté de BM, on a les dents qui arrivaient parquet. On avait vraiment envie de faire gagner cette machine européenne. Ça aurait été une première historique. En même temps, les pneus Michelin auraient remporté aussi le championnat du monde d'endurance. C'était titré mondialement, et c'était vraiment un challenge très très attrayant. Sauf que dans les premières minutes de course, le japonais en question, et je dis toujours que les japonais c'est à double tranchant, c'est-à-dire que c'est comme une lame de katana, c'est que effectivement les japonais démarrent les courses d'endurance comme des courses de grand prix, et généralement
une vraie belle boche,
et c'est rare que ça aille au bout correctement. Donc c'est ce qui s'est passé. En fait, il y a eu une lutte avec les deux pilotes qui sont partis en tête, Sébastien Gimbert et ce fameux japonais du Yacht. Et alors il y a eu une série de dépassements, vraiment on a assisté à vraiment une course de grand prix, un début de course extrêmement animé. Je sais pas si tu l'as vu, Xavier.
Non, j'ai pas pu suivre, mais
vraiment un début de course extrêmement animé, vraiment très chaud entre les deux pilotes, et qui s'est terminé dans le bac à gravier, puisque le japonais a fini par perdre l'avant. On dit aussi que Sébastien a un peu fermé la porte. Bref, en tout cas ils se sont trouvés, ils sont partis tous les deux au tapis, hop, ils sont repartis en 24e position. Oh. Et alors là c'est le GMT qui est passé en tête de la course. Un truc incroyable, après une heure de course le GMT était en tête. Et la tête, il l'a gardée jusqu'à la fin.
Ouais, c'est-à-dire qu'ils ont, hein, hein,
ils ont mené la
c'est
course.
C'est pas 24 heures. Hein.
Non, mais ils ont mené les 8 heures de bout en bout.
Mais 8 heures, c'est pas mal.
Les 8 heures de bout en bout sans aucun problème, avec un travail technique aussi dans les ravitaillements, parce que c'est aussi là-dedans qu'on gagne les courses d'endurance. Hein, absolument parfait, sous la pression quand même de ces deux teams qui ont fait une remontée mais incroyable, et qui pour justement essayer d'aller chercher tous les deux ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire le titre, la troisième place, etc. Face à ça, Suzuki est resté droit dans ses bottes. Le team a fait aussi un bon boulot. Et BM, enchaînant les relais de plus en plus rapide, il y avait parfois 2 secondes autour, hein, de différence. Hein, donc il y a vraiment une vitesse de pointe beaucoup plus élevée, à peu près 300 km/h en termes de meilleure vitesse de pointe. Et donc ils ont remonté, et à un quart d'heure avant la fin de l'arrivée, ils ont réussi à passer le CERT de Dominique Mélian. Donc ça a été un truc incroyable, parce qu'on le voyait arriver, on voyait revenir sur le GMT, et le GMT a tenu bon jusqu'au bout, et c'est Mathieu Lagriffe qui a terminé à 1 minute et demie, je crois qu'il y a 1 minute et demie de différence.
En gros,
à la fin
il fallait absolument que la BM termine première.
Et il fallait absolument
que Suzuki termine troisième.
Voilà. Ouais. Et donc c'était quasiment
Alors l'erreur que BM a fait, c'est c'est là-bas, c'est aux 24 heures. Hein, c'est là le.
Là, je pense qu'il y a aussi l'erreur de Sébastien qui aurait dû temporiser, laisser passer le japonais. Ils étaient plus rapides dans les autres relais. Il y avait que le japonais qui était en mesure de lutter dans le team du Yard. Donc sur les autres relais, ils auraient été meilleurs. Il aurait dû temporiser, rester derrière lui, se calmer. Je pense qu'il a aussi fait une erreur de. Je sais pas ce que tu en penses. Mais quand on est comme ça, on a un titre à portée de main. Je pense qu'on doit pas, en tant que pilote, on doit garder la tête froide.
Ouais, surtout sur une course d'endurance. J'ai pas pu suivre, mais en début de course comme ça.
C'est surprenant, enfin, cette attitude de vouloir tout de suite.
Ce que me disait Manu, savoir. Comment dire,
temporiser un peu.
Ouais, temporiser, voir la proportion des risques par rapport à ce que ça peut nous apporter.
Il y a des consignes quand tu pars comme ça, le team manager il te dit ouais, on a un plan de course.
Il y a un tableau de marche.
Il y a un tableau de marche. On ouais. dit, tu fais pas plus que ça ou
ouais,
tu respectes
bien réfléchir
ou,
avant
ou,
de...
ou tu pars comme ça et c'est toi qui décide.
Non, il nous laisse faire, il nous met pas trop de pression, mais il nous dit avant de doubler ou avant de tenter quelque chose, vois si ça peut vraiment t'apporter beaucoup. Et ouais.
Mais on ne dit pas par exemple le tour, c'est tu fais en deux minutes 40, tu restes dans ces temps-là, dans les temps, si tu veux. Non.
Et je crois que aussi l'ego de certains pilotes est ouais. tellement énorme. Oui. Et je pense que BM pouvait pas laisser filer la Yamaha pour des raisons voilà, super visuelles. Je crois que leur objectif c'était de mettre un boulevard à tout le monde dès le départ pour assommer la concurrence. Et ça l'a pas fait comme ça. Et c'est un fait de course malheureux. Mais en tout cas, ça profite à Yamaha et au GMT 94 qui du coup fait sa plus belle course de la saison. Yamaha n'avait pas gagné, GMT 94 n'avait pas gagné depuis 2007, ça fait du bien à tout le team. Donc on a eu l'occasion de vivre ça. Et puis par rapport à Suzuki, ils ont eu aussi des déboires avec la blessure de Vincent Philippe, avec on a Freddy Forêt qui est un peu mis de côté. Il y a aussi un autre japonais qui a aussi fait ses armes, et du coup avec Dominique, c'est un japonais qui a été bien calmé, qui a pu apporter sa pierre à l'édifice. Et donc Dominique Mélian, bizarrement, n'a jamais autant souhaité la victoire du GMT 94.
Parce que c'est son...
Alors c'est ça,
la bête noire,
c'est ça toute la, hein, voilà, c'est ça.
Le GMT,
fois.
La bête noire.
Alors,
de Dominique Mélian.
Voilà, on a vécu beaucoup de duels entre le CERT et le GMT, et cette fois, je pense que Dominique Mélian a prié pour que le GMT tienne. Sinon, ils auraient peut-être perdu le titre, mais en tout cas, une belle saison et un beau défensif de Dominique Mélian, une belle saison pour le GMT. Je pense que BM va revenir plus fort l'année prochaine. L'année prochaine, GMT annonçait déjà qu'il avait les motos avec les traction control, avec un nouveau système de gestion d'allumage, etc. Donc, on aura une belle bagarre l'an prochain, sauf qu'on ne connaît pas encore la composition du championnat du monde. Hein. J'en revenais parce que je vois que tu sors ton calendrier, Jamich. On sait qu'il y aura une course à Oschersleben, que les deux courses de 24 heures, c'est une bonne nouvelle, en France, sont maintenues. C'est-à-dire les 24 heures et le bol. Donc, Xavier, c'est une bonne nouvelle pour toi. Mais par contre, on parle, je sais pas, tu me disais, une course au Castellet, peut-être.
C'est ce que j'ai entendu, là.
Bon, moi, j'ai pas d'infos. Pour l'instant, c'est pas filtré. La FIM est en réflexion.
Bien de revenir au Castellet.
Et puis
hein.
aussi,
moi,
surtout le Qatar s'est retiré de la promotion.
Ah oui, c'est ça. Alors,
c'est-à-dire que le promoteur, c'était le Qatar, QTEL, hein, notamment, compagnie de téléphone du Qatar, et puis QMMF, la fédération motocycliste du Qatar. Et bon, aujourd'hui, ils ont mis de l'argent dans le football et on sait même pas s'il y aura une course à Doha l'an prochain. La course à Suzuka sera maintenue de toute façon, parce que les Japonais, c'est vraiment leur passion. Alors, il faut parler du classement. Donc, il y a aussi, du coup, avec leurs deux belles prestations, enfin les belles prestations, sans être, pour parler de Kawasaki, sans être engagé dans la totalité du championnat, avec seulement deux courses, Team Kawasaki France. Qu'on connaît très bien avec Julien Decosta, Olivier Faure, Grégory Leblanc, font quatrième au championnat du monde. Avec seulement deux courses l'année prochaine, ils seront engagés sur la totalité du championnat. Ça nous promet une belle saison 2012. Hein. Il va falloir suivre. Qu'est-ce que t'en penses?
Je trouvais ça dommage justement que Kawa participait
à
l'intégralité.
Il était trop timide. Hein.
Vu au moins la course qu'ils nous ont fait.
Deux mots aussi sur Honda. Honda, t'étais légende. J'ai rencontré John McGuinness.
McGuinness, oui.
Et John McGuinness, cette fois, ils ont fait une belle course. Ils ont fini cinquième. Ouais. Ils ont fait une course plus régulière. Eux aussi, ils étaient partis comme à l'île de Man au départ, dans les premières courses.
Pareil, hein.
Et c'est pas du tout la même chose.
C'est pas la même chose.
Ils apprennent le métier. Et moi, je pense qu'il va falloir les attendre aux avant-postes.
Ils apprennent vite.
Prochainement, ils apprennent vite. Ils étaient au Qatar. Ils sont motivés. Je pense qu'ils vont continuer l'aventure. Voilà.
Bon, Aurélien, quand est-ce que tu passes de l'autre côté de la barrière? C'est-à-dire que tu pilotes?
Bon, on verra. On verra.
Ah, mais il faut te dépêcher là, hein, tu sais.
Il va falloir.
22 ans, hein, tu sais.
En tout cas, Xavier, l'année prochaine, tu mets le promo.
Oui,
je pense repartir en 1000 promos et faire quelques courses de championnat de France Superbike.
Alors je pense qu'avec le retrait de deux pilotes qui sont actuellement en tête, enfin en tête et derrière toi, je pense que...
Premier
et
troisième.
Voilà, premier et troisième, je pense que parce qu'ils vont partir dans des catégories supérieures, c'est-à-dire Superbike France, je pense que tu as de bonnes chances d'être champion l'année prochaine.
Il y a des chances, mais il va falloir bien préparer la saison et jamais rien d'acquis.
Donc on ne perd pas de vue. Merci à toi.
Merci à vous.
Merci, merci d'être venu dans l'émission. Aurélien, merci d'avoir réussi à te lever. Merci. Xavier, merci. Et puis, sans doute, à l'année prochaine.
Peut-être. À l'année prochaine.
Voilà. Au revoir, Gilles. Au revoir, Laurent. Au revoir. Passez un bon dimanche. À dimanche prochain.